Voilà, AVS, votre santé. Bienvenue pour une nouvelle matinée santé sur Beurre FM. Mon invité ce matin est le docteur Pascal Douek. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Alors vous êtes médecin, nutritionniste et enfin vous avez un double parcours. Vous êtes à la fois médecin et patient expert.
Oui, exactement. Donc médecin depuis un certain nombre d'années et patient expert depuis 8 ans. En tout cas, depuis 8 ans, je suis rentré dans la maladie et je suis atteint d'une sclérose en plaques. Ce qui fait que pendant les premières années, j'ai continué à travailler, j'ai continué à m'engager sur mes activités professionnelles. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, j'ai été obligé de commencer à lâcher prise sur un plan professionnel. Et donc, tout de suite, le temps que j'ai pu gagner pour moi, je l'ai consacré aux associations de patients. Et je me suis investi auprès de deux associations de patients, l'ARCEP et l'UNICEF, pour lesquels j'accompagne et j'aide effectivement d'autres malades et leurs proches qui ont besoin de soutien, avec un profil un peu particulier qui est le mien, qui est celui d'être médecin et malade à la fois.
Est-ce que les médecins font des bons malades ?
Les médecins sont des très mauvais malades et c'est très difficile d'établir une relation en tant que malade avec des professionnels de santé quand on est soi-même professionnel de santé. Ça rend toujours dingue.
Pourquoi ?
Quand elle m'accompagne dans les consultations, parce que finalement, il se passe un truc toujours terrible, c'est que je suis en train de parler avec le médecin d'un malade, c'est moi, mais c'est comme si on était tous les deux en train de parler de ce malade. Et ça me met dans des situations quand même très particulières. Et automatiquement, le besoin qu'on peut avoir quand on est malade d'être accompagné et d'être guidé, il ne fonctionne plus du tout, en tout cas pour moi, en tant que professionnel de santé.
Vous publiez Le cannabis médical, une nouvelle chance, pourquoi, pour qui, comment, aux éditions Solar. À noter que quand vous vous êtes intéressé au sujet, vous ne connaissiez rien à ce sujet.
Alors,
puisque vous avez été convoqué en 2018, mais vous n'étiez pas en tant qu'expert du cannabis.
Exactement, c'est-à-dire que en tant que médecin patient engagé auprès des associations de patients, j'ai été contacté par l'Agence du médicament donc en 2018 pour rejoindre ce comité scientifique qu'à l'époque la ministre de la Santé, donc Agnès Buzyn, avait souhaité constituer pour répondre à la question: y a-t-il ou non un intérêt ou une pertinence scientifique à autoriser le cannabis médical pour un certain nombre de malades? Et juste pour rappeler le contexte, en 2018, il y a près d'une quarantaine de pays dans le monde qui avaient autorisé le cannabis médical, dont plus d'une vingtaine de pays en Europe. La France étant un des derniers, le dernier des Mohicans, avoir toujours résisté et essayé de cantonner et de bloquer la sortie du cannabis médical. Pourquoi ? Parce que dans cannabis médical, il y a cannabis, c'est qu'on est quand même le premier pays d'Europe en termes de consommateurs de cannabis, et deux, nous sommes le pays le plus répressif sur le plan du cannabis. Donc le simple fait d'autoriser le cannabis médical posait de vrais problèmes, on va se dire, éthiques pour les politiques, avec la crainte et la peur que le simple fait que le cannabis médical soit autorisé soit une façon de mettre le pied dans la porte de la légalisation du cannabis tout court.
Bien. Alors, votre conseil temporaire, qu'est-ce qu'il rend comme avis à la ministre ?
Alors, notre conseil temporaire, donc, ce comité scientifique, on se retrouve 13 experts, dont la majorité sont des experts scientifiques de haut niveau, à réfléchir, à travailler, à auditionner toutes les parties prenantes. Et au bout de 3 mois, le comité est constitué en octobre 2018. Dès décembre 2018, à l'unanimité dans le conseil, on recommande l'autorisation du cannabis médical auprès de la ministre de la Santé, qui nous suit et qui nous donne le feu vert et qui nous dit « Ok, maintenant, définissez les modalités d'application de cette autorisation du cannabis thérapeutique. » Donc, ça s'appelait thérapeutique à l'époque, la dénomination a changé, on parle de cannabis médical maintenant, ce qui fait que pendant les 6 mois qui ont suivi, nous avons travaillé sur le format d'une expérimentation qui devrait commencer théoriquement...
Qui devait commencer,
vous avez raison Philippe, en juin dernier, c'est-à-dire qu'en juin dernier, les premiers malades devaient voir leur cannabis délivré. Cette date a été ramenée en septembre, puis pour des raisons de Covid, elle a été ramenée en janvier, et aujourd'hui, on est dans une situation de brouillard et d'opacité totale, Ce qui fait que nous ne savons absolument pas quand cette expérimentation pourra démarrer, tout simplement parce que là, l'expérimentation a été votée et l'autorisation a été votée à l'Assemblée nationale l'année dernière, en fin d'année, à l'unanimité, et qu'aujourd'hui, il faut qu'un décret d'application sorte, soit signé, et que ce n'est pas le cas.
Il est sur le bureau de qui en ce moment, le décret ?
Il est sur le bureau du ministre de la Santé, mais on est dans un contexte aujourd'hui qui est un petit peu compliqué.
Peut-être pas la priorité.
Parce que ce n'est pas la priorité et que surtout il y a un virage du gouvernement quand même, qui est parti dans une démarche, on va se dire, assez répressive et on va se dire assez droitière sur un plan politique.
C'est que Darmanin a dit,
voilà,
il est allé avec des mots
assez sérieux, et encore une fois, dans cannabis médical, il y a cannabis, et quand aujourd'hui on mène une politique répressive contre le cannabis, on peut pas s'embarrasser, en tout cas c'est le point de vue du politique, hein, on veut pas s'embarrasser d'une autorisation de cannabis médical qui pourrait rendre les décisions confuses dans une vision, on va se dire, répressive.
Bien. Alors, je ne sais pas si j'ai mal lu votre livre, mais le cannabis thérapeutique a existé, a été vendu en pharmacie, et il est tombé sous le coup des lobbies.
C'est ça.
C'est-à-dire est-ce qu'en gros, on peut résumer comme ça ?
C'est à peu près ça. Il y a une très longue histoire. 3000 ans avant Jésus-Christ, on retrouve les premières traces, notamment en Chine, de l'utilisation du cannabis médical dans les douleurs, dans les épilepsies, dans un certain nombre d'indications par les médecins chinois. Puis après, on passe dans la médecine égyptienne, dans la médecine grecque et romaine. Donc voilà, on a un historique qui est extrêmement solide d'utilisation de cette plante jusqu'au 19e siècle, les médecins, les pharmaciens travaillent avec le cannabis médical. Qu'on soit en France, dans les pays anglo-saxons, le cannabis médical fait vraiment partie du paysage de la médecine. Et puis, le 20e siècle, on rentre dans la prohibition. On est vraiment rentré dans la prohibition. Il y avait la prohibition de l'alcool, et puis il y a eu, juste à la suite de la prohibition de l'alcool, la prohibition du cannabis, pour des raisons, effectivement, on va se dire, assez raciste dans la conception américaine. Pourquoi ? Parce que le cannabis, c'était les Mexicains qui arrivaient, la marijuana, c'était les populations noires dans la Nouvelle-Orléans qui consommaient le cannabis de manière importante, et ce sont ces populations qui ont été visées par les politiques de l'époque, et il y a eu un blocage total sur le cannabis, et effectivement, comme vous dites, aussi des lobbies qui se sont mis en place pour essayer de fermer la porte à cette plante qui menaçait, par exemple, l'industrie pharmaceutique, tout simplement.
Ouais. Et en 1950, donc, l'ONU proclame que le cannabis et toutes les préparations dérivées n'ont plus aucune utilité médicale. Donc, à partir, ça, c'est le début de la traversée du désert du cannabis. À quel moment est-ce qu'il revient en grâce ?
Il commence à revenir. Alors, 1950, c'est l'ONU. 1970, c'est la promulgation des lois anti-cannabis sur la répression. C'est le cas en Europe. Voilà, la détention de cannabis, la culture du cannabis est totalement interdite. Et en parallèle de ça, dans les années 90, il commence à y avoir un nouvel intérêt au niveau scientifique. C'est-à-dire que les médecins commencent à redécouvrir. Bon, on retrouve effectivement en Israël Robert Meshulam, qui est un médecin qui a découvert le THC.
Voilà, on va en parler. Voilà. Faut expliquer à tout le monde là.
On va reparler peut-être.
On parlera. Voilà. Ouais.
Mais il commence à y avoir effectivement une pression qui commence à s'exercer des patients qui expriment un soulagement assez incroyable du cannabis dans un certain nombre de maladies. On va dire que la première utilisation du cannabis, c'est les douleurs chroniques, ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques, hein, qui sont des douleurs extrêmement difficiles à traiter. Et des patients commencent à raconter des histoires extrêmement remarquables et marquantes de guérison, en tout cas de soulagement phénoménal, et d'arrêt de tous les traitements qu'ils prenaient, comme les opiacés, les morphiniques, qui avaient un nombre d'effets secondaires très important.
Est-ce qu'on a fait des études scientifiques qui permettent, parce que, surtout en France, hein, ça marche beaucoup, ça, de détailler les effets?
Alors, on est dans un domaine où on a un certain nombre d'études, mais pas d'études qui soient réellement remarquables dans la manière dont elles ont été construites, pour plein de raisons. La première, c'est que le cannabis étant en phase de prohibition, les scientifiques ne pouvaient pas se fournir de cannabis. Donc faire des études quand on est sur un stupéfiant qui est illégal, ben, ça ne donne pas accès aux chercheurs à cette matière. La deuxième, c'est une dimension financière. C'est-à-dire que quand on parle du médicament et quand on regarde les études qui sont menées par le médicament, qui est derrière ? C'est l'industrie pharmaceutique qui a des moyens, effectivement, qui sont des moyens colossaux et qui permettent de faire des études à grande échelle. Là, il n'y avait pas d'acteurs qui pouvaient mettre en place des études. L'industrie pharmaceutique ne s'est jamais intéressée au cannabis, ou surtout, elle a toujours voulu prendre ses distances avec le cannabis pour des raisons encore politiques. Et puis, les seuls qui pouvaient s'y intéresser, ce sont les chercheurs scientifiques, académiques, universitaires, qui n'avaient pas les budgets pour conduire des études importantes. Donc, certaines études ont été menées, mais jamais d'études à grande échelle et jamais d'études qui étaient designées pour, effectivement, permettre de démontrer une efficacité. Et puis, la troisième chose, c'est la qualité du cannabis. Le cannabis s'utilise... Alors, il y a énormément de variétés de cannabis. Il y a à peu près 1000 variétés de cannabis qui sont différentes. Et à l'époque, on considérait le cannabis comme une seule forme. C'est-à-dire qu'on disait, il y a un cannabis. Sauf qu'aujourd'hui, on a vraiment compris qu'il n'y a pas un cannabis, mais des cannabis. Et que selon la variété qu'on utilise, l'effet thérapeutique n'est pas le même. L'effet médical n'est pas le même. Or, à l'époque, dans les années 90, même au début des années 2000, on considérait que c'était une seule et même entité. Ce qui fait qu'on ne prenait pas de différenciation en fonction de la variété utilisée. De la même manière, on ne différenciait pas non plus le mode d'administration. Il y a de nombreux modes d'administration et c'est extrêmement important.
Ça ne se fume pas que.
Voilà.
Pourtant, il y a un marché. Hein. Vous parlez de l'industrie du médicament, mais par exemple, les Canadiens qui sont très présents sur le marché, les Américains, c'est un business quand même. Ça rapporte de l'argent. Dans la version thérapeutique.
C'est un business énorme. Le Canada est, dans l'ordre des choses, en 96, c'est la Californie qui est le premier État aux États-Unis à autoriser le cannabis médical sur cet État. En 2001, c'est le Canada qui est le premier pays qui l'autorise. Aujourd'hui, les acteurs internationaux industriels du cannabis, ce sont les Canadiens et les Américains, qui sont les gros acteurs mondiaux, mais qui n'a rien à voir avec l'industrie pharmaceutique. Ce sont des acteurs nouveaux qui se sont créés et qui sont apparus aujourd'hui en Amérique du Nord, puis ensuite qui se sont développés en Europe, puisqu'il y a 20 pays aujourd'hui qui font du cannabis
médical. Si on parle des Canadiens, ils produisent vraiment une plante spécifiquement pour les médicaments et...
Alors, ils ont toute la chaîne. Donc, ils ont toute la chaîne qui est de la culture. Donc, la culture du cannabis médical, ça se pratique sous serre. C'est bien évidemment gardé. Donc, on est vraiment dans le même contexte que la culture pour l'industrie pharmaceutique de certaines plantes. Il y a toute une batterie de tests qui est régulièrement pratiquée pour s'assurer qu'on a bien les dosages que l'on veut et qu'on a des formes standardisées. C'est-à-dire qu'au final, le malade et le médecin, quand il va prescrire ces produits-là, il a la garantie d'avoir la bonne quantité dans les produits qu'il va utiliser. Toute la chaîne de la culture, la récolte, la transformation des produits, parce qu'il faut transformer ces fleurs séchées en huile, en gélules, et puis ensuite le conditionnement pour conditionner différentes variétés. Tout ça, effectivement, c'est ce qu'on appelle du GMP ou des bonnes pratiques de fabrication sur le même modèle que l'industrie pharmaceutique. Donc on ne peut pas s'improviser producteur ou industriel du cannabis médical.
Et alors, dans le cadre de l'expérimentation qui est souhaitée en France, qui est le fournisseur ?
Alors, c'est une question encore qui n'est pas encore résolue, tout simplement parce que sans décret d'application, aujourd'hui, l'agence du médicament qui est le pilote de cette expérimentation ne peut pas continuer à avancer, et que le deuxième élément qui aujourd'hui manque cruellement pour que l'expérimentation démarre, c'est un budget. Il n'y a pas eu de budget qui a été accordé. Donc aujourd'hui, il y a deux urgences à réaliser pour que l'expérimentation démarre, c'est former les professionnels de santé.
Qui ne le sont pas, évidemment.
Qui ne le sont pas, et qui pour beaucoup d'entre eux n'ont aucune connaissance, aucune culture sur le cannabis médical.
C'est le but de votre livre aussi, d'informer le personnel
livre,
médical.
D'informer les malades, leurs proches. Et puis, en second plan, les professionnels de santé qui n'ont aucune... Parce qu'ils n'ont jamais appris à la fac, on ne vous parle pas de cannabis quand vous faites vos études de médecine. Et chez les professionnels de santé, il y a encore une réticence par rapport à ça. Parce que pour eux, l'image reçue du cannabis, c'est que c'est une drogue. C'est la drogue qu'on achète dans la rue. Et la drogue qu'on achète dans la rue, c'est pas un médicament pour eux.
Donc là aussi...
Donc il y a un travail. Premier travail, c'est la formation des médecins pour essayer de lever ces réticences et de leur donner une vraie culture sur le cannabis. Et la deuxième, c'est mettre en place un cahier des charges et faire la sélection des différents acteurs qui seront ceux qui vont fournir le cannabis médical dans l'expérimentation. Et pour ça, il faut effectivement que ce décret et que le budget soit voté. En sachant qu'en France, il y a un vrai sujet sur la production de cannabis, puisque certains départements, notamment la Creuse, se sont portés candidats pour effectivement diversifier leur agriculture et permettre effectivement de créer une filière française de cannabis. Donc il y a un sujet politique qui vient se rajouter à celui qu'on évoquait.
Si ça crée des emplois. Hein. Voilà. Allez, Pascal Doueck est avec nous ce matin. Vous pouvez montrer votre livre à la caméra, hein, puisqu'on en parle ce matin. Un sujet neuf, le cannabis médical, une nouvelle chance. Pourquoi, pour qui, comment? Et c'est aux éditions Solar.
Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Ça, c'est un cliché, Nicolas. C'est pas bien.
Ah bah, dès que ça parle de cannabis, je vais me marrer.
On parle du cannabis médical ce matin avec mon invité, le docteur Pascal Doueck. Vous publiez le cannabis médical, une nouvelle chance. Donc pourquoi, pour qui, comment? Et l'éditeur, c'est Solar. Vous le montrez à la caméra puisque l'émission est filmée. Vous pouvez la voir sur YouTube et vous pouvez poser vos questions en direct au 01 53 48 3000. Alors, il y a quatre grandes sortes de cannabis, en gros.
Oui, il y a quatre catégories de cannabis. C'est utile d'avoir ça en tête parce que ça permet de clarifier les choses. Je pense qu'il y a une réelle confusion qui s'est installée là-dessus. La première, c'est celle qu'on connaît tous, c'est le cannabis récréatif. Alors, c'est quoi le cannabis récréatif? C'est le cannabis qu'on va acheter dans la rue. C'est surtout des variétés qui ont été sélectionnées avec les années pour avoir des taux de THC. On va faire un point quand même sur ces notions d'ingrédients, d'actifs au sein du cannabis. Dans le cannabis, il y a énormément de molécules actives. Il y en a à peu près 500. Donc c'est quand même important dans la plante cannabis dont on récolte les fleurs séchées. Donc c'est dans les fleurs que l'on retrouve la concentration maximale d'actifs. Ces actifs, ils sont répartis en ce qu'on appelle des cannabinoïdes. Donc c'est des phytocannabinoïdes. Donc ce sont des molécules qui sont propres au cannabis. Et puis après, on a des terpènes et des flavonoïdes qui sont des molécules qu'on va retrouver dans d'autres plantes aussi. Mais il faut savoir que l'ensemble de ces 500 actifs ont un effet médical qui est intéressant et surtout un effet synergique. Et parmi les phytocannabinoïdes, il y en a deux qui sont les plus connus, dont on entend parler de façon régulière. La première, c'est le THC. Donc le THC, c'est l'actif psychoactif, c'est celui qui vous fait planer. C'est celui qu'on va rechercher quand on consomme à titre récréatif du cannabis. On recherche des variétés qui soient riches en THC. Et puis le deuxième, c'est le CBD, le cannabidiol. Alors là, on voit dans les rues parisiennes ou dans les rues des différentes villes des boutiques qui s'ouvrent régulièrement et qui vendent des dérivés de produits à base de CBD. Le CBD, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'actif bien-être. Il n'est pas du tout psychoactif, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'effet, on va se dire, planant, ou il ne vous défonce pas. Mais par contre, il a des effets bien-être, c'est-à-dire qu'il peut détendre, il peut permettre de réduire l'anxiété, il peut permettre d'améliorer le sommeil, voire il peut permettre de mieux supporter les douleurs dans certains cas. Voilà. Donc ces deux actifs, ils sont essentiels parce que c'est au travers des dosages de ces deux actifs qu'on va pouvoir définir l'effet thérapeutique. Je reviens sur mes catégories.
Ouais.
Le récréatif, très riche en THC. Voilà. Donc, c'est évident que cette forme de cannabis que l'on achète dans la rue n'est pas adaptée pour le cannabis médical parce qu'elle va avoir un effet ultra planant et elle aura un effet thérapeutique qui sera généralement faible. Donc, c'est pas celle-là vers laquelle on va se diriger. Le deuxième, on vient d'en parler, c'est le cannabis bien-être, c'est le CBD. Le troisième, il existe, il faut le savoir, c'est le cannabis pharmaceutique. C'est-à-dire que ce sont des médicaments qui ont été développés à partir d'extrait du cannabis, soit du THC, soit du CBD, ou les deux.
Alors, parfois. Comme quoi, comme médicament?
Alors, il y a le Sativex, par exemple, qui est un médicament qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché en 2014, en France et en Europe, d'ailleurs, qui est indiqué dans la sclérose en plaques, dans les spasticités et les douleurs de la sclérose en plaques.
Alors, spasticité, moi, je l'ai appris ce mot-là en lisant votre livre. Qu'est-ce que c'est? Et c'est pas propre qu'à la sclérose en plaques, d'ailleurs.
Non, c'est la sclérose en plaques. Et puis, toutes les lésions neurologiques et médulaires qui peuvent survenir, par exemple, après un accident traumatique ou après un accident vasculaire cérébral. Cette spasticité, c'est une contraction permanente des muscles. Généralement, ce sont les muscles des jambes, mais ça peut être aussi les muscles des membres supérieurs. Mmh. Et cette contraction, effectivement, limite la mobilité des personnes qui en sont atteintes, et elle est souvent associée à une douleur. Voilà. Et c'est vraiment une problématique dans la sclérose en plaques, et le cannabis a pu démontrer, en plutôt certaines variétés de cannabis, hein, je reprécise toujours ça parce que c'est important, ouais, certaines variétés ont pu démontrer un effet bénéfique sur la spasticité et sur la douleur. Donc le Sativex est un médicament qui a été fait par un laboratoire pharmaceutique à partir de deux extraits, le THC et le CBD. Il a obtenu son autorisation de mise sur le marché, mais il n'a jamais été commercialisé en France, tout simplement parce que le gouvernement, entre le gouvernement et le laboratoire, ils ne se sont pas entendus sur un prix pour la vente de ce médicament. Donc, les personnes qui ont une sclérose en plaques se sont retrouvées privées de ce produit. Ça fait 6 ans que ça dure, et il n'est pas prêt d'être commercialisé. Il y en a un deuxième médicament qui s'appelle l'Epidiolex, qui vient d'être commercialisé il y a plusieurs mois, qui est un médicament uniquement à base de CBD, et qui traite les épilepsies de l'enfant, les épilepsies rares, sévères de l'enfant, et qui résistent à tous les traitements médicamenteux existants. Voilà, donc ça c'est le deuxième.
C'est l'indication là.
C'est l'indication, et le troisième qui existe, c'est du THC synthétique cette fois, donc c'est pas des extraits, ce sont une production de THC synthétique, et qui est utilisée pour traiter la douleur ou pour traiter les effets des chimiothérapies cancéreuses sur les nausées, vomissements ou les pertes d'appétit. Voilà. Donc ces trois médicaments existants rentrent dans la catégorie
pharmaceutique.
Et puis la dernière, c'est celle qui nous intéresse, c'est le cannabis médical. C'est quoi le cannabis ? C'est l'utilisation de la plante dans l'ensemble de ses actifs. Donc c'est la fleur séchée qui est utilisé dans son intégralité, ce qu'on appelle le totem. Et à partir de là, sont extraits les actifs, enfin, sont récoltées les plantes, puis elles sont transformées soit en fleurs séchées, soit en huile, soit en gélules, pour permettre effectivement de l'utiliser en cannabis médical. Alors, ce qui est important, et ce qu'il faut le dire, c'est que le cannabis médical, c'est pas fumer des joints. Voilà. Parce que on a toujours cette image avec le cannabis, on va le fumer avec du tabac ou sans tabac, en roulant avec du papier. C'est la forme qu'on a totalement interdite dans le cannabis médical. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien qu'avec la cigarette, avec le joint, on a tous les produits de la combustion qui apparaissent, c'est-à-dire tous les effets toxiques, et qu'on ne va pas rajouter à des personnes qui sont malades des risques de choper un cancer du poumon. Donc les formes autorisées ou recommandées plutôt, ce sont les formes vaporisées, donc ce sont avec des vaporisateurs électriques, ce sont des petits appareils dans lesquels on met les fleurs séchées pures au sein de l'appareil, et on a une extraction à des températures qui sont bien moindres que celles du joint ou de la cigarette. Et puis les formes sublinguales, c'est-à-dire des huiles pour lesquelles on utilise les gouttes sous la langue, ou alors les gélules à base d'huile qui sont utilisées par les médecins pour pouvoir effectivement avoir un effet thérapeutique qui soit bien spécifique.
Alors, expliquez-nous, on va essayer de faire simple, on va faire de la simplicité maintenant, ce qu'on appelle le système endocannabinoïde, et en quoi, selon vous, est-ce que c'est une découverte majeure ?
Alors, c'est une découverte majeure, parce que c'est comme quand nous avons découvert qu'au niveau de la morphine et des opiacés, nous avions un système avec des endorphines, c'est-à-dire que notre organisme produisait des molécules qui étaient apparentées à la morphine, et on avait cette capacité, effectivement, de lutter nous-mêmes contre la douleur en produisant des molécules. De la même manière, on parle souvent des endorphines chez les joggeurs ou ceux qui font du marathon, parce qu'ils recherchent, effectivement, cette côté un peu excitant et planant donc quand on fait un effort de longue durée en produisant des endorphines. On a découvert finalement la même chose, finalement, c'est qu'on avait un système endocannabinoïde, c'est-à-dire que notre organisme disposait à la fois de récepteurs aux cannabinoïdes, c'est-à-dire que de récepteurs à nos propres cannabinoïdes, et puis que nous produisions nous-mêmes des molécules, ce qu'on appelle des endocannabinoïdes, donc des molécules qui étaient dans la même famille que celles du cannabis. C'est-à-dire qu'en fait, quand on utilise le cannabis, ce cannabis va se fixer directement sur nos propres récepteurs, activer ces récepteurs et produire un effet. Voilà. Selon, encore une fois, la quantité de THC ou de CBD qu'il va y avoir au sein du produit qu'on consomme.
Et alors, est-ce qu'on peut activer et désactiver ces récepteurs ? Parce que c'est la question. Ce qui permettrait de lutter contre certaines douleurs
sur des zones. L'objectif et tout.
Il y a un schéma, c'est vachement bien expliqué dans votre livre, parce que c'est ça qui est bien. C'est vraiment, on explique pourquoi ça fonctionne et comment ça fonctionne et sur quelle zone ça fonctionne.
Merci, parce que c'est un sujet difficile à vulgariser. Le système endocannabinoïde, c'est ultra compliqué, c'est ultra complexe et donc ça décourage les trois quarts des gens de rentrer dans ce sujet. Or, c'est essentiel. Donc, j'ai essayé, moi, de mon côté, de le vulgariser, de le rendre accessible. Et je sais que ça reste quand même toujours difficile, mais il faut juste comprendre que grâce à la découverte de ce système, on a pu mesurer les effets bénéfiques du cannabis, anti-inflammatoire, anti-proliférant, anti-infectieux, antalgique, il y a effectivement de nombreux effets qu'on a pu mesurer. Et surtout, on a ouvert une deuxième voie dans la recherche, c'est-à-dire, et ça c'est la recherche pharmaceutique, d'essayer d'identifier des molécules qui se fixent directement sur ces récepteurs cannabinoïdes et qui pourraient avoir un effet bénéfique avec un nombre d'effets secondaires minimal. Voilà. Donc c'est un petit peu...
Là, on tape au plus juste, mais alors voilà. C'est vraiment des thérapies qui sont au millimètre.
Exactement, ultra ciblées. Ultra ciblées. Mm-hmm. Donc ça, c'est... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'affairent et qui s'activent sur le système endocannabinoïde pour essayer de trouver des molécules qui permettraient d'agir de manière puissante, notamment sur la douleur, par exemple, avec des effets secondaires extrêmement faibles.
Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas parlé des effets secondaires, mais aujourd'hui, le cannabis thérapeutique a des effets secondaires et finalement serait déconseillé à certaines personnes.
Alors, moi, je replace toujours le contexte. C'est important de l'avoir en tête. Quand on parle de cannabis médical, on ne s'adresse pas aux gens dans la rue. Encore une fois, on s'adresse à des personnes qui sont malades. C'est important de le dire parce qu'il y a toujours un risque de confusion qui nous fait toujours peur à nous, médecins, qui est de se dire, ah, il y a du cannabis médical, ça veut dire que c'est bon pour la santé, donc moi, je peux en fumer.
Le cerveau, cerveau fait le raccourci, finalement.
Oui, c'est ça. Il y a un moment, ce risque de raccourci, de dire, puisqu'il y a du cannabis médical, c'est bon pour la santé, donc moi, je suis tranquille, je peux en fumer autant que je veux, j'ai pas de risque vis-à-vis de ça. Non, c'est bien évidemment pas le cas. Le cannabis médical, il s'adresse à des gens qui sont malades et qui ont des maladies sévères, qui ont des symptômes sévères, pour lesquels l'ensemble de ces symptômes ont résisté au traitement médicamenteux traditionnel. Il faut bien se dire, on est vraiment en deuxième ou troisième...
C'est pas en première intention, c'est
non,
ça que vous voulez dire.
Pas en première intention. Sur des personnes donc, qui ont des maladies sévères et qui ont des symptômes sévères. Donc, dans ces cas-là, on n'est pas tellement préoccupé par le risque d'effets secondaires. On est toujours dans le côté balance, bénéfice, risque. Si j'ai des bénéfices, c'est plus important, et mes risques par rapport à des personnes qui souffrent, ces risques sont minorés. Surtout quand on a en tête que aujourd'hui les traitements antalgiques qui sont sur le marché, ce sont les opiacés, qui eux sont associés à des risques extrêmement violents de dépendance, d'effets secondaires. Et si vous vous rappelez, aux États-Unis, toutes les crises qu'il y a eu de mortalité avec les opiacés, puisqu'il y a une consommation qui est totalement délirante de gens qui sont accros à ces produits et qui finalement, il y a eu beaucoup de décès aux États-Unis. Donc il faut quand même bien avoir conscience que le cannabis, c'est le stupéfiant qui a été classé d'ailleurs dans les différentes classifications qui ont eu lieu, le stupéfiant le plus sûr, le moins addictif par rapport à morphine, à l'héroïne.
D'accord, mais c'est pas parce qu'il est moins addictif qu'il n'est pas addictif.
Il est addictif, donc ça, il faut le savoir, parce que le THC est une molécule qui est addictive, le CBD ne l'est pas, mais le THC est addictif, donc il faut le savoir et il faut le gérer. D'où le cannabis médical, la nécessité d'un encadrement médical. C'est-à-dire que le cannabis médical, c'est pas moi, c'est pas un malade qui va décider d'en acheter de son côté pour en prendre, c'est le corps médical qui va poser un diagnostic, qui va estimer que ce diagnostic rentre dans le cadre d'utilisation du cannabis médical, qui va prescrire les formes de cannabis médical qui correspondent à la nature des symptômes de ce malade et qui va l'accompagner avec un pharmacien qui va lui délivrer. Donc, vous voyez, il y a vraiment un encadrement médical.
D'accord, mais on parle d'un encadrement médical qui aujourd'hui n'est pas formé.
Absolument. Et le cannabis médical n'existe pas.
Donc ça veut dire que c'est quand même pas mal de chantiers qui doivent être en place avant que ça soit opérationnel.
On y est presque. Moi, je reste optimiste là-dessus parce qu'on y est presque. Tout a été mis en place. Tous les feux sont au vert, à part ce décret et ce budget qui sont censés quand même arriver d'un mois à l'autre.
Censés arriver d'un mois à l'autre. Mais c'est vrai que comme vous arrivez au moment où il y a le débat sur le cannabis récréatif, voyez, ça fait diversion.
Je suis à la fois optimiste parce que je trouve qu'on a fait on a fait déjà une partie du chemin importante. Je suis quand même très inquiet aujourd'hui pour tous ces malades, tout simplement quand je vois comment le gouvernement met de côté aujourd'hui le sujet cannabis médical. Quand j'entends Gabriel Attal qui nous parle de ce décret sur ce sujet, quand il est pris à partie sur ce décret et qui nous répond « je crois que ce décret sera signé d'ici la fin de l'année », c'est pas acceptable d'entendre ce genre de discours. Nous sommes en septembre, ça devait démarrer en janvier et on nous dit « je crois » que le décret sera signé d'ici la fin de l'année. On n'a même pas d'engagement ferme de la part du gouvernement sur ce sujet. Et puis on en parlait tout à l'heure. De l'autre côté, il y a la répression qui s'est accentuée sur le cannabis aujourd'hui, qui vient contrecarrer finalement le cours de l'histoire ou le parcours du cannabis médical.
Bon, si vous avez des questions, vous pourrez en poser dans un instant 01 53 48 3000. Je rappelle le titre du livre de notre invité, le docteur Pascal Doueck. Le livre s'appelle Le cannabis médical, une nouvelle chance. Pourquoi, pour qui, comment? L'éditeur, c'est Solar.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle du cannabis médical ce matin. Donc vous pouvez appeler masqué, 01 53 48 3000 si vous avez des questions. Peut-être que même vous l'avez déjà utilisé. Le docteur Pascal Doueck est notre invité, patient expert, hein, puisque vous aussi, vous expliquez comment vous avez été amené à tester des choses que d'autres malades vous avez racontées, puisque vous avez interrogé et interviewé un grand nombre de patients. Et vous-même, vous l'avez testé. Alors, comment ça s'est passé, votre expérimentation du cannabis médical?
Quand j'ai démarré ce comité scientifique, on a commencé à auditionner un certain nombre d'associations de patients, notamment, et je me suis dit, bon, ça serait peut-être quand même utile que je m'adresse déjà à ma communauté, c'est-à-dire la communauté de malades sclérose en plaques, pour voir si j'identifie un certain nombre de personnes qui utilisent à titre personnel du cannabis médical. Ça a été quand même assez surprenant parce que dans un premier temps, je n'ai eu aucune réponse. En travaillant avec une association qui a effectivement une puissance importante au niveau national, je n'ai eu que des réponses. Ah oui, mais en fait, je connais quelqu'un qui en fume, mais c'est pas moi. Donc j'ai pas eu de réponse directe et je pense que il y avait une vraie peur d'être démasqué et de se retrouver interviewé par quelqu'un et de raconter son histoire personnelle. Je rappelle quand même que l'utilisation et la détention de cannabis est illégale et qu'on est exposé à la fois à des amendes, voire à des peines de prison aussi si on se fait choper.
Médical ou pas, en fait.
Médical ou pas, c'est cannabis tout court. Donc, j'ai fini dans un second temps à approcher un certain nombre de personnes qui utilisaient du cannabis et qui me racontaient les bienfaits sur une maladie qui est la mienne, donc sur laquelle les symptômes que eux pouvaient avoir ressemblaient de manière assez proche aux miens. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas de la même chose pour moi et que je n'essaierais pas aussi de voir si le cannabis est susceptible de calmer mes douleurs ou ma spasticité. Là, on rentre dans quelque chose qui est un peu compliqué. Parce que comment on fait quand on se retrouve dans un pays où tout est illégal, à essayer de se procurer du cannabis? Donc, première chose que j'ai faite sur les conseils d'une malade qui utilisait comme ça, qui avait une copine qui lui ramenait de Suisse du cannabis. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a une législation qui est plus libérale qu'en France. C'est-à-dire que le cannabis médical existe, mais il faut avoir une ordonnance d'un médecin suisse et il faut être suisse pour pouvoir en bénéficier. Donc c'était pas pour moi. Par contre, ils ont autorisé des formes de cannabis très light en CBD, c'est-à-dire qui sont plafonnées à 1% de CBD, donc c'est en dessous de 1%, avec des quantités de THC, qui sont plafonnées à 1% de THC et avec des quantités très élevées de CBD. Donc j'ai une copine qui était en Suisse qui a pu me ramener effectivement une variété que je lui ai demandé de me ramener. Et puis j'ai commencé à l'utiliser. Alors une des malades que j'avais interrogées me disait qu'elle le consommait, qu'elle le mâchait. Donc j'ai commencé à faire ça, je l'ai mâché, je vous avoue que c'est pas très bon.
Un peu la chic là, un peu le...
C'est pas très bon, c'est très fort de mâcher de la fleur séchée. C'est pas agréable. Bon, j'ai eu aucun bénéfice particulier, ni sur le sommeil, ni sur les douleurs, ni sur la spasticité. Et donc je me suis dit, tout simplement, j'ai pas de bénéfice parce que j'ai des formes très riches en CBD et il faudrait que je puisse mélanger ça avec des formes plus riches en THC parce que la finalité dans la sclérose en plaques, c'est d'avoir des formes équilibrées entre le THC et le CBD, ce qu'on appelle le ratio de 1-1, autant de THC que de CBD. Donc Là,
mais ça, c'est propre à votre maladie.
C'est propre à la sclérose
en plaques. Et ce qui sera peut-être pas forcément le cas d'autres maladies.
Absolument. Donc, si vous avez des douleurs neuropathiques, ouais. si vous avez une chimiothérapie anticancéreuse avec des nausées et vomissements, si vous êtes épileptique ou si vous êtes en soins palliatifs, puisque c'est la dernière des indications, c'est l'accompagnement des malades en soins palliatifs, les formes et les ratios ne sont pas les mêmes. Donc là, je suis passé par mon réseau personnel, c'est-à-dire des amis qui m'ont effectivement fourni du cannabis qu'ils consommaient à titre personnel et qu'ils achetaient dans la rue, et j'ai commencé à faire des mélanges. Et première expérience, elle était pour moi difficile parce que je me suis retrouvé complètement défoncé et que c'était pas l'objectif. C'est-à-dire que même si ça peut avoir générer un certain plaisir pour certaines personnes, quand on l'utilise à titre médical, l'objectif c'est pas d'être défoncé, c'est d'être soulagé.
Voilà. Alors tout l'enjeu est là, c'est que finalement, si vous utilisez le cannabis comme un médicament, il va falloir connaître précisément les compositions de ce que vous donnez à consommer, mais de surtout de voir qu'est-ce qui fonctionne sur quoi.
C'est ça. Et quand vous fournissez chez un dealer, le dealer ne sait pas ce qu'il vous vend. Il sait qu'elle est bonne ou pas bonne, voilà, c'est ce qu'il va vous dire, c'est-à-dire est-ce qu'elle vous défonce ou pas, est-ce qu'elle vous fait planer ou pas. Et généralement, derrière tout ça, c'est un taux de THC très élevé qui permet d'obtenir ça. Quand vous êtes dans un objectif, effectivement, de soulagement médical, ben là, vous voulez, effectivement, vous savez que, en tout cas, pour ce qui me concerne, et on connaît les ratios pour les autres symptômes, pour la sclérose en plaques, c'est un ratio de 1. Et ben, pour y arriver, c'est extrêmement difficile de pouvoir l'obtenir.
Donc, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui, on connaît les ratios des principales maladies pour lesquelles le cannabis médical est indiqué. Ça, donc, c'est posé et on sait ce qui fonctionne.
Exactement. On sait ce qui fonctionne. Donc, il reste la dernière solution qu'il reste. Enfin, il reste plus que deux. Tant que l'expérimentation n'a pas lieu, le fait d'acheter ces graines, qui sont des variétés connues parce qu'elles vont avoir des compositions qui vous intéressent, et de faire de l'autoculture, on est dans l'illégalité la plus totale. Aujourd'hui, l'utilisation du cannabis, la culture du cannabis est totalement inégale. Et la troisième possibilité, je vous raconte effectivement ce que font les malades que j'ai pu interviewer, c'est d'aller se fournir aux Pays-Bas avec une ordonnance d'un médecin français, parce qu'elles sont acceptées aux Pays-Bas, qui vous permet effectivement d'acheter dans des pharmacies les bonnes variétés. Et là, vous achetez des formes qui ressemblent à des médicaments. C'est soit des fleurs séchées que vous avez dans des boîtes comme des médicaments, avec des différents dosages qui sont précisés, soit des fleurs séchées, soit des huiles, soit des gélules. Voilà, il y a différentes formes qui sont disponibles. Et après, vous les consommez. Le seul risque auquel vous vous exposez, une fois de plus, c'est quand vous allez ramener ce cannabis médical des Pays-Bas, vous allez passer à la frontière, vous allez être dans le train.
Il faut le cacher sous votre masque.
Voilà, il y a les douanes. Donc vous risquez effectivement de vous retrouver avec une saisie de ce que vous avez pris et une amende, bien évidemment.
Le chanvre et le cannabis, c'est la même chose ?
C'est la même famille. C'est-à-dire que le chanvre, alors le cannabis, c'est du cannabis sativa. Voilà, ça c'est la dénomination botanique latine. Le chanvre, c'est du cannabis sativa. C'est exactement la même dénomination, c'est la même famille. Qu'est-ce qui les différencie ? C'est les concentrations. C'est-à-dire qu'en France, la loi est très claire. Vous n'avez pas le droit de cultiver des variétés qui contiennent plus de 0,2% de THC. 0,2% de THC, ce n'est rien. Et deuxièmement, vous n'avez pas droit qu'en France de cultiver du chanvre en récoltant les fleurs et les feuilles. Les fleurs et les feuilles, vous devez les jeter.
Donc, quelle est la partie de la plante qui est donc...
C'est la tige.
C'est la tige
et les graines que vous allez utiliser. La tige qui sert à faire des biomatériaux qu'on utilise dans les voitures, qu'on utilise dans des bioplastiques. Hein. On en fait comme des plastiques au niveau industriel. Les graines qu'on utilise au niveau alimentaire. Il faut savoir que la France est le leader européen du chanvre et le troisième cultivateur de chanvre au monde. Donc on a vraiment une puissance dans le chanvre. Mais il faut juste savoir aussi, c'est que nous ne récoltons pas les fleurs, nous ne récoltons pas les feuilles, tout simplement parce qu'il y a des taux de calaminoïdes qui sont interdits et les cultivateurs, les agriculteurs les brûlent. Ils sont dans l'obligation de les brûler. Vous voyez, le monde est quand même compliqué par rapport à ça.
Aujourd'hui, quels sont les pays du monde qui l'utilisent, donc, qui ont
on va se dire, l'Amérique du Nord qui l'utilise, un certain nombre de pays en Amérique du Sud, l'Israël.
L'Amérique du Nord, dans l'intégralité des États ou pas?
Le Canada, bien sûr. Il y a à peu près 33 États aux États-Unis qui ont autorisé le cannabis médical avec des législations qui sont très différentes d'un État à l'autre. La Californie est l'État le plus libéral. La Californie, vous avez ce qu'on appelle des greenhouses. Ce sont des endroits qui sont un peu comme des pharmacies, mais c'est un lieu où vous allez trouver des médecins qui sont spécialisés en cannabis médical et qui vont vous prescrire une ordonnance et qui vont vous vendre, puisqu'ils font à la fois médecin et pharmacie, qui vont vous délivrer des doses de cannabis. Ça, c'est le côté un peu très peu médicalisé, même si ce sont des médecins, c'est un business. C'est devenu un vrai business. Quand vous êtes européen, vous êtes français, que vous allez en Californie, tout le monde va aller dans les greenhouses. On n'est pas malade, on veut juste avoir du cannabis, mais il faut juste passer par un médecin qui vous donne l'autorisation et qui vous en vend. Donc vous voyez, lui, il est intéressé à titre vraiment de businessman par rapport à ce truc-là. Donc on va dire que ce n'est pas un vrai modèle cannabis. Il y a le Canada, l'Israël, qui est un des pays précurseurs aussi du cannabis médical et surtout précurseur dans la recherche. Il y a une recherche sur le cannabis médical qui est très active. Ils produisent maintenant au niveau mondial du cannabis médical, donc ils sont très présents. Des pays en Amérique du Sud, l'Australie, qui est très active dans le cannabis médical, plus une vingtaine de pays en Europe qui l'ont autorisé.
Est-ce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui peuvent demander à faire partie de la fameuse expérimentation dont vous parlez? Parce que dans votre livre, vous expliquez comment on peut le faire et qui pourraient être les personnes concernées et intégrées à l'expérimentation.
Il y a 5 indications qui ont été définies. La première, c'est les douleurs neuropathiques. C'est, je pense, probablement la catégorie, l'indication la plus importante en termes de nombre de patients qui seraient concernés. Donc, les douleurs neuropathiques, ce sont des personnes qui ont eu une lésion neurologique ou une maladie neurologique et qui présentent des douleurs chroniques, qui sont des douleurs extrêmement difficiles à supporter, qui sont des douleurs avec des crises, en plus, c'est chronique et avec des douleurs paroxystiques. La deuxième indication, c'est l'épilepsie sévère de l'enfant, voilà, donc qui résiste au traitement habituel, pareil pour les douleurs. La troisième, ce sont les nausées, vomissements et pertes d'appétit dans le cadre des chimiothérapies anticancéreuses. La quatrième, on en parlait, c'est la sclérose en plaques, ce qu'on appelle la spasticité et les douleurs de la sclérose en plaques. Et la cinquième, c'est les soins palliatifs, c'est l'accompagnement des personnes qui sont en fin de vie pour lesquelles le cannabis va apporter effectivement une tranquillisation et une douceur dans ces dernières semaines de vie. Alors, si on souffre d'une de ces maladies, c'est avec son spécialiste qu'il faut voir si on est éligible ou pas. Généralement, votre spécialiste, si vous avez un neurologue, si vous avez un centre antidouleur, si vous avez un cancérologue ou un oncologue qui vous suit, estimera si vous pouvez faire partie de l'expérimentation. Et si lui a été volontaire et si lui va être formé, il pourra vous le prescrire. Sinon, il pourra vous envoyer vers un autre centre qui, lui, a fait la formation.
On parle d'effets antitumoraux aussi. Est-ce qu'il y a du recul par rapport à ça ou pas du tout?
Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ce qu'on appelle l'effet antiprolifératif. C'est-à-dire que le cannabis permettrait de réduire la multiplication des cellules cancéreuses. Alors, c'est un vrai sujet qui intéresse de nombreux scientifiques. C'est beaucoup trop tôt pour pouvoir l'utiliser dans ce sens-là, parce qu'on ne comprend pas encore très bien quels seraient les actifs qui seraient susceptibles d'avoir cette action, et à quelle dose. Voilà. Donc on n'est plus chez la souris, on est plus, vous voyez, ce qu'on appelle en préclinique, on est vraiment sur les chercheurs en paillasse, où on a effectivement pu montrer ça. Donc ça ouvre des perspectives. Il faut juste savoir qu'on est au tout début de l'histoire du cannabis médical. C'est une science très jeune, et qu'on a une potentialité d'effets et d'utilisation pour lequel nous sommes qu'au début.
Mais c'est incroyable, parce que vous dites que on est au tout début, alors qu'on utilisait à une époque le cannabis pour soigner la peste.
Pour soigner la peste, le choléra.
Enfin, vous voyez, donc,
dans ces indications complètement dingues.
Il y a eu des indications.
Et la prohibition est passée par là. Tout s'est arrêté. C'est devenu une substance bannie et pour lequel on a été poursuivi pour ces substances-là. Donc il y a eu vraiment un retour en grâce et retrouver des lettres de noblesse. Et aujourd'hui, tous les scientifiques s'active de manière extrêmement forte sur cette substance pour en trouver tous les bénéfices. Donc il y a une vraie deuxième vague, on va se dire, sur le cannabis aujourd'hui, qui est plutôt très intéressante.
Vous avez parlé de la sûreté de la plante. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de la sûreté de la plante?
Alors, qu'est-ce qu'on sait sur cette plante? Quand on prend le cannabis médical, il y a deux contre-indications majeures, c'est les femmes enceintes. Voilà. Donc, quand on est enceinte, on sait que l'utilisation du cannabis va avoir un effet sur le développement cérébral du fœtus. Donc, il ne faut surtout pas utiliser le cannabis quand on est enceinte. Pareil pour l'allaitement, c'est la même chose. Voilà, l'allaitement, le cannabis, les actifs passent dans le lait maternel, donc automatiquement passent chez le nourrisson. Donc, les effets sur le développement cérébral sont importants. La deuxième, les précautions d'emploi au travers du cannabis médical, c'est la conduite automobile. On a des facultés qui sont réduites. De la même manière que quand on prend un somnifère ou quand on en prend un anxiolytique, hein, une benzodiazépine, il ne faut pas conduire de voiture ou il ne faut pas utiliser de machine. C'est à peu près la même chose. Donc ça, c'est à peu près les risques qui sont associés à ça. Le risque addictif, il existe, mais encore une fois, je vous parle toujours du cannabis médical, donc de personnes qui ont de vrais états de santé qui nécessitent une prise en charge, et l'addiction, on va un petit peu s'en préoccuper. Le risque cérébral, le risque cognitif, il existe aussi dans le cannabis. On en parle beaucoup plus chez les jeunes adolescents qui en consomment à titre récréatif, parce que bien évidemment, quand on est encore en cours de développement cérébral, il faut éviter d'utiliser du cannabis. Mais quand on est chez les personnes qui ont des douleurs chroniques, par exemple, on ne va pas se préoccuper, beaucoup moins se préoccuper des risques cognitifs.
Bien. Alors, votre livre vient combler un vide. Il n'y a pas beaucoup de littérature hein, sur le sujet aujourd'hui. Effectivement, vous êtes intéressé à la façon dont ça fonctionnait sur notre organisme. Je rappelle le titre de votre livre, « Le cannabis médical, une nouvelle chance. Pourquoi, pour qui, comment ?» aux éditions Solar. Merci d'avoir été avec nous, docteur. Vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous regardez la vidéo sur la chaîne YouTube. Et merci et à bientôt pour une nouvelle journée santé sur beurrefm.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli beurrefm.